J'ai retenu pour accompagner notre méditation un texte qui s'inscrit dans la filiation à la fois du texte lu dans le livre d'Ézéchiel et puis aussi le sens que nous avons donné à ce baptême qui s'inscrit donc dans la question de la nature avec deux versets que l'on trouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 4. Ce sont les versets 30 à 32. En fait, ça fait trois versets. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci. « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais, une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Seigneur, ta parole est pour nous chemin de vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, toujours, je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 250. Cantique 250, nous nous levons pour chanter. Éternel, nous te remercions d'avoir toi-même comblé la distance qui nous sépare de toi à travers Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. C'est là que nous pouvons y redécouvrir le trésor qui y est mis pour chacun de nous. Que nous puissions maintenant bénéficier de cette grâce. Chers frères et sœurs, j'ai donc fait le choix de ce texte pour, en quelque sorte, flatter le penchant de Clara vers la nature. Et quand on a soi-même une fille qui s'appelle Clara, il est difficile de refuser de faire plaisir à une Clara. Et cet intérêt pour la nature est tout à fait précieux, me semble-t-il. Apprécier la nature, prendre plaisir et intérêt à observer la nature, et même en fait une attitude très utile sur le plan théologique. Il y a peut-être là finalement une théologienne en herbe, une genre de petite pousse de théologienne qui s'ignore pour l'instant peut-être. Le pasteur puis philosophe américain Emerson disait que la nature corrige les Écritures. C'était là pour lui une manière de dire que l'observation de la nature nous aide à mieux comprendre les textes bibliques. Nous pouvons, par exemple, penser à l'apport de Galilée, qui constate que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Eh bien, cela, par exemple, nous conduit à repenser le livre de l'Ecclésiaste, où il est écrit que le Soleil se lève et se couche. Cela ne veut pas dire que Galilée disqualifie les textes bibliques, cela signifie qu'il nous incite à les requalifier. Il nous incite à repenser les registres sur lesquels on peut lire ou ne pas lire les textes bibliques. La nature est donc précieuse pour notre compréhension des textes bibliques, et la nature est d'ailleurs très présente au sein même des textes bibliques. Et en particulier les arbres. Et d'ailleurs, si l'on y réfléchit bien, l'arbre est la première chose que voit le premier homme, Adam, dans la Bible. L'arbre, c'est pour l'homme comme une sorte de reflet, comme un miroir dans lequel il peut s'observer. C'est une sorte d'alter ego. Et c'est la raison pour laquelle les métaphores liées à l'arbre sont nombreuses dans les textes bibliques. Il y a par exemple à un moment donné un aveugle qui est guéri par Jésus, et quand il commence à recouvrir la vue et qu'on lui demande ce qu'il voit, il dit « Je vois des hommes qui sont comme des arbres qui marchent ». Autrement dit, l'arbre fait vraiment figure de métaphore de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'arbre, évidemment, est cet objet qui se tient entre ciel et terre, un peu comme nous. Mais l'arbre est plus que cela. L'arbre, en effet, c'est ce qui plonge ses racines dans le sol où sont enterrés les morts et d'où il tire invisiblement sa nourriture. L'arbre qui se dresse sur la terre des vivants et qui balaye le ciel de ses branches, d'où il porte des fruits. L'arbre montre à l'homme, Adam, les trois niveaux où se joue son existence. Trois niveaux où il peut penser ce que signifie être. D'où vient la vie? Qu'est-ce que la vie? Et où va-t-elle? Eh bien, dans cette histoire de graines de moutarde, l'accent est mis sur le présent, et le moutardier va nous permettre de nous interroger sur ce que signifie être au présent. Il va nous permettre de développer en quelque sorte, mais modestement, une théologie de l'être. Alors le premier point que je retiens de cette parabole, c'est la part que Dieu peut prendre dans notre développement personnel. La première réalité que l'on observe, c'est un grain qui est semé en terre. Au commencement, il y a donc un acte qui rend possible la suite de l'histoire. Il y a une sorte de déclencheur. Je dirais qu'il y a un oui qui est prononcé sur ce grain, une permission qui est accordée à ce grain pour qu'il accomplisse sa vocation personnelle. C'est une sorte de oui primordial. Un oui qui vient au début du récit, qui vient au début de l'histoire. Tout commence par un oui. Un oui qui autorise le grain à faire son métier de grain. C'est un oui originel qui va l'autoriser à être. Là où bien souvent on pense que dans la Bible il est question de péché originel, la Bible révèle qu'il y a des oui à l'origine des histoires. Dans la perspective du royaume de Dieu, c'est-à-dire selon une vie authentique, c'est lorsqu'un oui est prononcé que la vie est rendue possible. Un oui qui autorise. Et l'autorité parentale, c'est d'abord cela. Ce n'est pas le pouvoir que l'on a sur ses enfants. L'autorité, c'est la capacité que l'on a à autoriser. C'est le oui que l'on prononce sur nos enfants. Ouais, parfois. Un oui est prononcé. Et la graine peut se mettre à pousser et à grandir. C'est dans le texte biblique. La plante va monter progressivement. On n'est pas graine à un moment donné et puis arbre à l'instant suivant. C'est progressif, c'est lent, il faut être patient. L'école, ça dure longtemps. Si le texte prend la peine de préciser cela, c'est pour nous éviter deux illusions. La première illusion, c'est de penser que tout pourrait arriver tout de suite. C'est de penser que tous nos caprices peuvent se réaliser, qu'il suffit de claquer les doigts pour avoir ce qu'on désire. C'est l'illusion qu'avec l'aide de Dieu, tout peut changer en une seconde. Mais justement, l'observation de la nature est intéressante, y compris de la nature humaine. Et comme le dit très justement mon collègue, le pasteur Marc Pernaut, la réalité nous montre que Dieu ne peut pas faire pousser un chêne centenaire en une seconde. La deuxième illusion, c'est que nous puissions ne pas grandir. En disant cela, je pense à des enfants réels, bien réels, mes enfants. Parfois, ils me disent qu'ils veulent rester enfants, qu'ils ne veulent pas devenir adultes. Alors, évidemment, je me dis que je dois leur présenter un bien piètre visage de ce qu'est être adulte, une image pas très satisfaisante qui ne les encourage pas beaucoup à grandir, et qu'ils ne veulent surtout pas être comme moi. Ça tombe bien, il n'en était pas question de toute façon. Ce qui me rassure, c'est qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, à vrai dire, et que régulièrement, nous entendons des enfants qui ne veulent pas grandir. Alors en général, c'est passager, tout va bien. Cela semble même assez normal chez un enfant de ne pas vouloir grandir à certains moments, tout simplement parce qu'il n'a pas envie de perdre le charme de la vie d'enfant. Et il sait très bien ce qu'il risque de perdre en devenant adulte. Il le sait aussi bien que nous qui parfois regrettons de ne plus être enfant, voire pire, qui des fois regrettons de ne pas être un chat ou un chien. L'enfant a certainement de bonnes raisons de craindre ce qu'il va lui arriver. Et du coup, il arrive que parfois les enfants bloquent leur croissance, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique. Ils refusent de grandir, ils refusent de quitter leur univers d'enfant, ils refusent de devenir adultes avec tout ce que cela signifie en termes de responsabilité. En France, on appelle cela le syndrome Peter Pan, du nom de ce personnage qui ne veut pas quitter le pays imaginaire. Pays imaginaire qui, je crois, en anglais se dit Neverland, le lieu qui n'a jamais lieu, en fait. C'est comme s'il y avait une sorte d'effacement du lieu. Non pas une utopie, qui est un horizon que l'on espère atteindre, mais une atopie, une absence de lieu, un non-lieu, et donc un non-être. Je pense que c'est là encore que Dieu prend sa part dans l'éducation des plus jeunes. C'est dans le fait que l'homme, comme l'arbre, pousse. Dieu, ce n'est donc pas seulement le coup de pouce initial, c'est ce qui rend la croissance acceptable. C'est ce qui nous aide à accepter les changements de notre vie. Peut-être d'ailleurs plus les changements que la croissance, car il y a aussi des moments de décroissance, il y a aussi des moments de rupture. Il y a aussi des moments où ça saigne dans notre croissance. Eh bien, Dieu, c'est ce qui nous aide à supporter les transitions, à les rendre acceptables. Toutes ces petites transitions qui, mises bout à bout, constituent notre courbe de croissance, avec parfois des cycles de décroissance. Dieu, c'est ce qui nous aide à accepter les autres quand nous sommes petits. Et Clara le disait très bien dans sa prière scout. C'est aussi ce qui nous aide à nous accepter, nous, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui nous aide à accepter le fait que, par exemple, nous ne soyons pas tout à fait celui dont nous avions rêvé. Dieu, c'est ce qui nous aide à grandir, à l'image de ce petit grain qui pousse pour devenir une grande plante potagère. Dieu, pour le dire autrement, c'est notre rapport à l'être. Dieu, c'est lorsque nous nous tenons face à l'être. L'être, ce qui rend capable chacun d'être. Ce qui fait de nous un étang, pour prendre un terme philosophique. Dieu, c'est l'être en devenir. C'est lorsque nous sommes capables d'être nous-mêmes, à l'image de ce grain de moutarde qui devient la plus grande des plantes potagères. Alors j'aimerais aussi relever un deuxième aspect dans ce texte. C'est justement le contraste qu'il y a entre cette toute petite graine, car on dit que la graine de moutarde est la plus petite des graines, et le fait qu'elle devienne plus tard la plus grande des plantes potagères. Qu'elle devienne. Elle n'est pas au départ, elle devient. C'est là que se jouent beaucoup de choses, dans le fait qu'elle ne se contente pas d'être. Ce contraste entre le microscopique et quasiment le macroscopique, ce contraste nous rappelle qu'il ne faut évidemment jamais négliger les petits aspects de notre vie. Ici, de dire qu'il ne faut jamais négliger les plus petits d'entre nous. Un enfant qui ne semble pas très robuste, qui est peut-être même malade. Un enfant qui ne semble pas très doué, pas très ambitieux. Un enfant qui ne semble pas très intéressé par ce que nous lui proposons. Pour peu qu'il soit au contact de l'être, avec toutes ses potentialités. Qu'il réalise qu'il y a d'autres manières d'être que la sienne. Peut-être plus intéressantes. Peut-être plus jouissive aussi. Eh bien, cet enfant-là peut se transformer. Il peut se révéler. Il peut s'épanouir. Alors, il y a dans l'histoire de nombreuses illustrations de ce contraste entre cette toute petite chose au départ, qui semble ne pas avoir beaucoup d'avenir, et puis ce qui advient finalement. On peut penser à ce que dit un auteur anonyme du XVIIe siècle au sujet de Jésus. Je cite, « Je suis absolument sûr de moi quand je dis que toutes les armées qui ont jamais défilé, que tous les parlements qui ont jamais siégé et que tous les rois qui ont jamais régné, tous mis ensemble, n'ont jamais affecté la vie de l'homme sur cette terre autant que cette unique vie est scellée, Jésus. » Il est des petites graines qui, effectivement, au départ, semblent véritablement insignifiantes. Qui sont jetées à la surface de la terre et qui reviennent avec le temps, parce qu'elles ont pris racine et qu'elles ont grandi, et qu'elles deviennent finalement telles un arbre à l'ombre duquel les oiseaux du ciel peuvent s'abriter, trouver un refuge, construire ou reconstruire leur vie. Nous pouvons penser, dans la grande histoire, à quelqu'un comme Nelson Mandela, jeté au fond du trou. Qui fut de cette variété de graines qui pousse et qui devient un havre de paix, un havre d'hospitalité pour tous ceux qui ont cherché un nouveau départ, une fondation pour une existence nouvelle. Mais il ne faut pas être trop fasciné par la grande histoire, par les choses spectaculaires, par les grands saints de nos religions. L'histoire s'écrit aussi dans les trajectoires à notre échelle. Dans les situations qui peuvent apparaître bien précaires à première vue. C'est que nous avons souvent de l'être total, de l'être totalement accompli, l'image de quelqu'un dans toute sa superbe, capable de tous les exploits, capable d'agir, capable de faire tout et n'importe quoi souvent. Et du coup, celui qui ne produit pas semble ne pas exister. Mais cette parabole nous ramène à une compréhension autrement plus évangélique de ce que signifie être. Du fait même que tout commence par la plus petite des graines et que tout ne va pas dépendre d'elle. Lorsque nous regardons tout au bout de la croissance de cette parabole, être, c'est être hospitalier, être en mesure d'accueillir ces oiseaux du ciel qui peuvent trouver dans notre ombrage un lieu pour se reposer et ensuite pour repartir. Ainsi, je pense à la personne handicapée, pensons à Lucie, qui peut être un véritable abri, un refuge pour des soi-disant bien portants. Des soi-disant bien portants qui trouveront auprès d'elle des raisons de vivre, des raisons d'être, des raisons pour un nouveau départ dans la vie. Comme l'a admirablement bien dit le psychanalyste Daniel Siboni, en vérité, il n'y a pas un être suprême. Il y a des états suprêmes de l'être. Et ces états suprêmes de l'être sont déconnectés de l'agir, du produire. Des états suprêmes qui ne doivent rien à l'aspect superficiel des situations, des personnes ou des choses. Comme le grain de moutarde devient plus grand que toutes les plantes potagères, l'être, Dieu, c'est ce qui nous fait sortir de l'esclavage de ce qui est, là, posé, définitif, enfermé dans une tombe devant laquelle on a roulé la pierre. L'être, c'est ce qui nous fait sortir de ces tombeaux-là. C'est ce qui nous fait advenir à l'infinité, l'infinitif de l'être. C'est ce qui nous fait déborder de nous-mêmes. C'est ce qui nous fait tenir hors de nous-mêmes et nous met en relation. C'est donc ce qui nous fait exister. Vous voyez, cette théologie de l'être, à travers cette petite parabole d'une petite graine de rien du tout, nous révèle que s'occuper d'enfants, de jeunes, d'adultes, s'occuper de nous-mêmes, ce qui n'est pas rien non plus, c'est s'inscrire dans cette dynamique divine, dans ce rapport à l'être qui nous autorise à nous lancer dans la vie et qui fait grandir, qui fait croître, non pas pour dominer, non pas pour s'étendre, non pas pour prendre le pouvoir sur les autres, mais pour enseigner l'art d'accueillir, l'art de recevoir, l'art d'être hospitalier. Le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui se sent autorisé à grandir et qui, au fil des ans, apprend que la vie, ce n'est pas l'art de se servir, mais l'art de servir. Amen.